Shabbos Kodesh. Yidelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du commentaire de la paracha par le grand rabbin Avraham Harold Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons essayer de réaliser cette émission dans des conditions encore un peu particulières. Cette semaine d'ailleurs, nous lirons la paracha de Emor, de l'allumage des bougies à 20h30 selon le calendrier. Mais on a l'usage, monsieur le grand rabbin, d'allumer les bougies du Shabbat en même temps que la synagogue les allume.
Voilà, tout à fait. C'est une consigne sur laquelle nous sommes déjà revenus à plusieurs reprises. Et je le rappelle, référez-vous, c'est très important, à l'horaire d'entrée du Shabbat dans vos synagogues. Nous avons des journées qui se rallongent au fur et à mesure que nous avançons dans le calendrier. Et il y a donc de grandes chances pour que dans votre synagogue, bon, la plupart des synagogues de Strasbourg commencent leur office du vendredi soir à 19h30, souvent par l'office de Mincha, mais il y a de grandes chances en tout cas pour que l'entrée, l'acceptation du Shabbat à la synagogue, au moment où l'assemblée va réciter le Lecha Dodi, ou juste après, au moment de la prononciation de l'arrestation du Mizmor Shir Yom HaShabbat, eh bien qu'elle se fasse plus tôt que l'horaire limite d'allumage qui peut être indiqué sur certains calendriers. Voilà, qui correspond, lui, pour le coup, à 18 minutes avant le coucher du soleil. Voilà, vous imaginez bien que lorsque le coucher du soleil, je vous donne un exemple, est à 22h et qu'on pourrait donc allumer théoriquement jusqu'à quasiment 10h moins le quart, vous imaginez bien qu'il y a très peu de synagogues à Strasbourg dans lesquels on fait entrer le Shabbat à 10h moins le quart. Très souvent, on est déjà à table à ce moment-là, donc il faut faire vraiment très attention à cela.
Voilà, la fin du Shabbat, c'est Shabbat, donc samedi à 21h46. Les horaires sont évidemment uniquement valables pour Strasbourg et sa région. On voudrait évidemment, comme chaque semaine, souhaiter un refouage chez les mains à tous nos malades, et particulièrement à Léna Batsara et à Lana Deborah Batsalom. On leur souhaite évidemment un refouage chez les mains et que tout se passe bien pour elles. Shabbat Shalom évidemment particulier également à nos aînés et aux personnes isolées. Lundi soir, ce sera la Hiloula de Rabbi Simon Bar Yochai. Hier, c'était déjà la Hiloula de Rabbi Meir Balanes. C'est quoi une Hiloula, monsieur Grand Rabbin ?
Alors, une Hiloula, c'est tout simplement la célébration de l'anniversaire de la disparition d'un grand sage, d'un juste. Et là, en l'occurrence, donc, vous venez de rappeler deux grands maîtres du Talmud qui ont tout simplement illuminé leur génération, hein, chacun à sa manière, notamment par leurs enseignements, par leur comportement également, mais par la puissance de leurs enseignements, par la puissance de la Torah qu'ils ont répandue autour d'eux. Et la particularité peut-être de notre tradition est que nous voyons dans le jour de leur disparition non pas uniquement un jour de tristesse, mais au contraire un jour qui est un jour de grande réjouissance, dans le sens où ces grands tzadikim, ces grands justes ont réussi leur vie. Le jour de leur disparition est certes un jour où malheureusement le monde s'est vidé à ce moment-là d'une grande lumière, mais c'est aussi un jour où finalement, eh bien, nous avons eu l'exemple, un exemple vivant de la possibilité qu'ont les hommes et les femmes que nous sommes de pouvoir réussir leur vie sur Terre. Bien sûr, nous célébrons des géants, mais il faut rappeler que ces géants étaient avant tout des hommes constitués de chair et de sang, ce n'étaient pas des anges, et ils ont réussi, bien sûr, à force de travail sur eux-mêmes, d'efforts, d'investissement dans l'étude de la Torah, eh bien, à pouvoir grandir, à pouvoir grandir les personnes qui étaient autour d'eux, et c'est très très important, et le rabbin Rebibo d'ailleurs l'a très bien fait hier soir, de rappeler que dans notre tradition on est capable, non pas seulement de mettre des enseignements en avant, ce que l'on a l'habitude de faire tout au long de l'année, mais également les personnes. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, parce que c'est très juste de mettre en avant également les personnes et les géants qui ont été derrière ces enseignements. Voilà, les enseignements, cette Torah que nous partageons durant toute l'année, eh bien, il faut savoir que c'est une Torah qui est en ébullition permanente, mais que beaucoup des grands enseignements, justement, notamment de la Torah orale, eh bien, ont derrière eux de grands tzadikim, de grands sages qui ont été capables de les travailler, qui ont été capable de les formuler. Il est important de pouvoir mettre ces personnes en avant.
La de Rabbi Shimon Bar Yochai a lieu le 33e jour du Homer. C'est une date un peu particulière, surtout pour les séfarades. Il y a un symbole dans le fait que ce soit 33 jours ou pas.
Alors, il y a en tout cas un symbole, forcément, ou un symbole d'espoir, en tout cas, entre le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai ait quitté ce monde au moment où, d'après notre tradition, l'épidémie terrible qui a frappé les élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée. Il y a forcément une lueur d'espoir à voir au travers de la disparition, finalement, de ce géant qui, on l'a dit, certes, lorsqu'il a quitté ce monde, eh bien, a laissé un petit peu le monde endeuillé d'une certaine manière et attristé, atterré même presque par le vide qui s'est créé au moment de la disparition de ce géant, mais en même temps, eh bien, il nous lègue un héritage spirituel tout à fait incroyable et qui est de nature peut-être à combler le vide qui a été laissé par la disparition des élèves de Rabbi Akiva. Donc il y a forcément, même si on n'est pas exactement aux mêmes époques, il y a forcément quelque chose à voir au travers de la rencontre entre ces deux événements, j'ai envie de dire l'un qui a été bouleversant et qui a été une tragédie absolue pour le monde de l'époque, et le second qui est plutôt naturel, puisque c'est la disparition d'un grand sage qui par définition ne pouvait pas être éternel, mais qui en quittant ce monde a également laissé derrière lui beaucoup d'espoir.
Voilà, ça c'est que chaque année à la Yanula, donc de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Esplanade organisée par la famille Selam, qu'on salue. Ce sera donc lundi à 19h30. On revient, monsieur Grand Rabbin, à la paracha de la semaine, et mort avec le résumé.
Alors, le résumé d'une paracha qui nous présente beaucoup de sujets différents. Elle va tout d'abord commencer avec une première partie qui est consacrée aux Kohanim, aux prêtres, toutes les lois qui concernent les Kohanim, les exigences particulières que nous avons vis-à-vis des Kohanim, aussi bien dans leur manière de se confronter au monde de la mort. Hein, vous le savez, il y a beaucoup de lois qui concernent tout spécifiquement les Kohanim concernant le rapport qu'ils entretiennent avec la mort, la possibilité de se rendre ou non impur pour des personnes décédées ou pour des proches décédés, les exigences que nous avons vis-à-vis du Kohen par rapport aux femmes qu'il peut épouser, qu'il est en mesure d'épouser ou pas. On parlera également d'un sujet très intéressant, qui est celui des infirmités, la liste des infirmités qui rendent le Kohen impropre au service à l'intérieur du temple. C'est un sujet à la fois passionnant, mais aussi un sujet qui peut être très polémique, donc on y reviendra. Donc toute une première partie de la paracha qui est consacrée aux exigences concernant les Kohanim, également l'importance de ne pas rendre impure la terouma, donc on verra aussi, parce que c'est une partie qui était consacrée au Kohen, une partie de la récolte qui était consacrée au Kohen. Et puis, dans un second temps, on parlera d'un sujet qui rejoint un petit peu le premier, qui est cette fois-ci la liste des infirmités qui concerne les animaux qui étaient apportés comme sacrifice. Donc on est encore, là aussi, indirectement lié au premier sujet, puisque ça rejoint la liste des Kohanim, mais lorsqu'on parle de sacrifice, on parle forcément aussi du monde qui concerne celui des prêtres, des Kohanim. Et puis, une deuxième partie, Jean, dans la paracha, où nous parlerons des fêtes. C'est une paracha très connue, la paracha Témor, puisque c'est une paracha qui est lue lors des grandes fêtes de l'année, puisque c'est dans cette paracha que se trouve, comme je le disais, donc le passage qui concerne chacune des fêtes, la spécificité de chacune des fêtes de l'année. Donc nous les passerons en revue, hein, depuis Pessah jusqu'à Soukhot, et notre paracha se terminera après donc avoir listé en détail toutes les différentes fêtes de l'année, se terminera, c'est la septième montée de notre paracha, par quelques lois qui concernent les choses que nous avons déjà vues précédemment, notamment dans le livre de Shemot, la menorah, le candélabre, les pains, deux propositions, et puis un épisode assez connu, assez bouleversant aussi, tout à la fin de notre paracha qui concerne le blasphémateur.
Alors, on va, monsieur le grand rabbin, commencer par le premier verset. On va pas très loin, le premier verset de la paracha, et il y a une répétition du mot dire. Et quand on répète le mot dire, on sait que la Torah est souvent très très parcimonieuse au niveau de ces mots qu'elle utilise. Si on a répété, c'est qu'il y a quelque chose à chercher.
Tout à fait.
Pourquoi la répétition de ce mot dire ?
Tout à fait, d'autant que la formule est ici très marquante, c'est ce que le passouk nous dit « Emor el akohanim ve amarta ». Donc on a « Emor ve amarta », on a vraiment une redondance qui est exacerbée par même l'introduction de ce passouk, par le mot « vayomer ». Donc on retrouve trois fois le verbe « vayomer » dans le passouk, « vayomer Hashem el Moshe », Dieu s'adresse à Moshe, et puis il lui dit « Emor ve amarta »,« dire, tu diras ». Alors la totalité des commentateurs ont relevé cette répétition, et je vais... vous en rapportez peut-être l'explication la plus célèbre qui est rapportée par Rashi lui-même, mais avec peut-être un éclairage différent de celui que nous avons l'habitude de proposer. Les Azir Gdolim Alaktanim, nous dit Rashi, c'est pour mettre en garde les grands vis-à-vis des petits, par rapport aux petits, aux plus jeunes. Et donc nous, on a l'habitude de comprendre ce Rashi comme une injonction qui est faite ici aux adultes d'être particulièrement vigilants par rapport à l'éducation de leurs enfants. Les Azir Gdolim Alaktanim, il y a une responsabilité chez les adultes, même par rapport à des enfants qui ne seraient pas encore majeurs dans le sens religieux du terme, qui ne sont pas encore concernés par un certain nombre de commandements, eh bien, de se montrer vigilants, de se montrer exemplaires dans leur comportement, de manière à ce que les enfants puissent s'imprégner d'un comportement positif qui les aidera eux-mêmes au moment voulu à être des adultes responsables. Mais il y a une deuxième lecture possible de ce Rashi, et Jean, vous aurez remarqué que nous ne disons pas ici les azir avot à la banim, de rendre vigilants les parents vis-à-vis des enfants, mais gdolim à l'actanim, les grands vis-à-vis des petits. Et donc on peut en avoir une deuxième lecture. Les grands, ce ne sont pas simplement les parents vis-à-vis des enfants, mais ce sont peut-être ceux qui, de par leurs fonctions, que ce soit leur fonction professionnelle, que ce soit leur responsabilité communautaire ou autre, eh bien, pourraient avoir une influence sur d'autres qui sont appelés ici les ktanim, les petits, donc pas comprendre dans le sens péjoratif du terme, comme des gens qui seraient moins importants dans la société, mais qui auraient peut-être naturellement moins de responsabilités, moins de fonctions. Eh bien, savoir que ceux qui ont ces responsabilités-là, ceux qui ont du poids de par ce qu'ils peuvent représenter aux yeux des gens, ont une responsabilité et qu'il faut qu'ils y fassent particulièrement attention parce qu'elle peut avoir une influence particulière vis-à-vis justement de ceux que l'on appelle dans ce Rashi les ktanim, les plus jeunes ou les moins expérimentés.
Alors, les Kohanim, on le sait, on voit dans la paracha, ont beaucoup de responsabilités, dont celui des caractéristiques de leur future femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, je peux vous en dire un peu plus. Je ne vais pas rentrer dans toute la liste qui est faite ici par la Torah, mais on a parlé d'un certain nombre d'exigences par rapport au Kohen. Alors, on est passé sur son interdiction de se rendre impur, sauf donc à quelques exceptions près, pour les morts. Vous voyez que le Kohanim, on attend de lui une attitude qui soit une attitude totalement exemplaire et une attitude différente, en tout cas, du reste du peuple. Eh bien, dans cette attitude qui est différente du reste du peuple, il y a effectivement un certain nombre d'unions qui sont prohibées pour le Kohen, tout simplement parce qu'elles ne s'inscrivent peut-être pas dans un schéma qui est un schéma finalement idéal, un schéma de ce que l'on pourrait appeler en hébreu la shlemut, une certaine forme finalement de complétude. Et lorsque par exemple le Kohen pourrait être tenté de contracter une union avec une femme qui a déjà elle-même vécu l'expérience du mariage, eh bien, nous serions finalement dans quelque chose qui est tout à fait autorisé, dans le cas où une personne n'est pas Kohen, puisque la Torah prévoit elle-même qu'un mariage puisse être dissous lorsque malheureusement il ne fonctionne pas. Mais lorsqu'il y a une deuxième expérience qui est tentée, eh bien, on est peut-être dans un deuxième projet. Il faut garder un petit peu de la fraîcheur de ce premier projet, et c'est la raison pour laquelle le Kohen, lorsqu'il va contracter une union, doit le faire dans un cadre dans lequel ce ichus, on va dire, ce lien, cette filiation est totalement intact. Donc il n'y a pas ici à en avoir une lecture péjorative, je le dis, parce que c'est finalement l'écueil tout à fait classique de se dire il y a une forme de ségrégation, de discrimination ici par rapport à certaines candidates. Pas du tout, c'est pas une discrimination. On n'essaye pas non plus de nous dire que le Kohen aurait une certaine forme de supériorité dans la personne qu'il incarne par rapport aux autres, mais qu'au travers de la responsabilité qui est la sienne, de l'exemplarité qui est la sienne, eh bien, le Kohen se doit d'être d'incarner quelque chose, un projet qui soit un projet que l'on appelle les Khatrila, c'est-à-dire un projet qui ne soit pas un projet a posteriori, mais un projet au contraire, qui s'inscrive dans une certaine forme d'a priori.
Alors, il y a un petit passage qui me choque, c'est un peu, c'est sur l'infirmité des Kohen qui leur empêche de faire le service. C'est des exemples qu'on donne, en tout cas, l'une des informations. C'est une personne qui aurait des sourcils anormalement longs. Moi, j'ai toujours cru que c'était la beauté du l'âme et du cœur qui était plus important. Alors là, pourquoi on fait un peu plus attention au physique des gens ?
Alors Jean, je vois que ça vous a fait froncer les sourcils.
Ouais.
Et vous avez raison. Vous avez raison. Et Jean, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on prenne un petit peu de temps pour s'arrêter sur ce sujet qui est un sujet effectivement très polémique, très dérangeant. Et c'est un sujet qui peut mettre très très mal à l'aise. Et qui, pourquoi est-ce que je tiens absolument à ce qu'on s'arrête un petit peu sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui fait bondir, surtout dans notre société. Nous sommes dans une société qui, je ne vais pas dire à tort ou à raison, je le dis à raison, à 100%, eh bien, prône et essaye de défendre et de se battre pour que l'on puisse absolument inclure et donner de plus en plus de place aux personnes qui justement souffrent d'infirmité ou de handicap. On sait que c'est un sujet majeur, on sait que ce sujet aujourd'hui trouve sa place vraiment dans tous les débats. Il n'y a presque pas une semaine sans laquelle au Parlement il est question justement de ces débats, de la place que l'on va leur donner dans le milieu professionnel, l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un sujet vraiment quotidien, hein, que ce soit dans les bâtiments, dans les transports, etc. Et donc, on est extrêmement choqué de voir ici toute une partie de la population être discriminée, justement, de par cette infirmité, ce qui est totalement contraire aux valeurs que nous portons aujourd'hui dans notre société. J'ai envie de vous dire, Jean, que si un Kohen souffre d'une infirmité qui, techniquement, aurait pu l'empêcher de réaliser certains travaux, eh bien, qu'on aurait dû, et c'est sans doute peut-être comme ça que notre société aurait réagi aujourd'hui, eh bien, d'exiger qu'il y ait des installations qui soient faites justement au Mishkan ou au Beth Amikdash pour lui permettre de pouvoir exercer ses fonctions.
Enfin, une personne qui a des sourcils anormalement longs, je ne vois pas quelle infirmité il peut avoir.
Alors, on en vient justement à la problématique ici qui va être de savoir est-ce qu'au travers de la longue liste des infirmités qui sont décrites justement dans la Torah et rapportées dans la Torah, est-ce qu'il n'est que question ici d'une problématique technique, de quelque chose qui empêcherait le Kohen, tout simplement physiquement, on va dire, et techniquement, de pouvoir faire son travail dans de bonnes conditions, ou est-ce qu'au contraire, on viendrait, ce qui pourrait être même encore plus dérangeant finalement, souligner qu'il existe un problème, même si ce problème-là n'est pas de nature à empêcher le Kohen à réaliser correctement son travail, mais qu'à partir du moment où le Kohen ne ressemble pas à Monsieur Tout-le-Monde, et encore, il faudrait décrire finalement quels sont ces critères de beauté universel. Est-ce qu'il existe vraiment des critères de beauté universelle ? Là aussi, on est dans un vrai débat de société pour savoir qu'est-ce que la beauté universelle. On est tous différents et on a tous, heureusement d'ailleurs, des traits, pas simplement des traits de caractère, mais même des traits de physiques qui nous différencient les uns des autres. Et donc, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse d'une société, c'est le fait qu'on soit tous différents, si bien physiquement qu'au niveau de nos traits de caractère. Et c'est ce qu'on essaye finalement de prôner. À partir du moment où on veut une société qui soit uniforme, eh bien, on en arrive très rapidement à des dérives. Il y a plusieurs manières, Jean, de se confronter à ce problème. A priori, ce ne serait pas un problème technique. Vous l'avez dit, pas uniquement pour le cas des sourcils que vous avez rappelé, mais on a d'autres preuves qui montreraient que, même si ce défaut, par la suite, n'existe plus et qu'il est amené à disparaître, eh bien, le Kohen reste, malgré tout, impropre au service. Une des raisons, hein, je ne peux pas toutes les ramener, il y a peut-être 5-6 manières de se confronter à cette problématique. L'une des raisons qui est rapportée par nos commentateurs est le fait que des personnes qui souffriraient, des kohanim qui souffriraient d'infirmité, pourraient avoir une certaine rancœur vis-à-vis de Dieu, et que cette rancœur pourrait altérer la manière dont elles seraient amenées à pratiquer le service à l'intérieur du temple. Or, lorsque le Kohen est amené à pratiquer ce service, il doit le faire avec un cœur qui soit entier, avec une concentration et une ferveur qui soit tout à fait intacte, et la Torah, en tout cas d'après un certain nombre de nos commentaires, pense que un Cohen atteint d'une infirmité pourrait, et à juste titre, hein, de manière légitime, parce qu'il se sent en quelque sorte lésé, eh bien, porter en son cœur une certaine forme de rancœur qui ne lui donnerait pas la possibilité d'effectuer son travail correctement. Je veux rajouter un bémol, Jean, et on en terminera peut-être avec cette question, pour rappeler, et cela pourra en tout cas inviter les auditrices et les auditeurs à essayer d'approfondir un petit peu le sujet et montrer que nous ne sommes pas ici dans quelque chose qui est tout noir ou tout blanc, on n'est pas dans une, justement dans une forme de discrimination, on le voit dans le sens où le Cohen n'est qu'impropre à exercer ses fonctions de Cohen dans le temple, mais que pour autant il n'est pas dépossédé de son statut de Cohen, c'est important de le rappeler, et on verra, le verset insistera bien sur le fait que le Cohen peut consommer, et le verset le dira, voilà, je le retrouve même, l'Echem Eloav Mikotcha Kodashim, Mina Kodashim, Yochel, qu'il pourra consommer les parties, et les parties saintes, et les offrandes saintes, et que c'est donc uniquement la partie vraiment de l'exercice de son travail qui lui est interdite. Donc c'est vraiment important de rappeler que dans ce qui pourrait apparaître comme une discrimination, à aucun moment le Cohen n'est dépossédé de son statut de Cohen.
Alors on va avancer, vous l'avez dit, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, mais il y a un thème qui est important aussi dans la paracha, c'est la terouma. Alors, c'est quoi la terouma, comment ça marche et qu'est-ce que ça représente?
Alors, la terouma, c'est une part de la récolte qui est, Jean, offert au Kohanim. Vous savez qu'il y avait, lorsque une récolte était semée, qu'elle était récoltée par la suite, et une obligation pour l'agriculteur de prélever de cette récolte une première partie qui était consacrée, qui était réservée au Kohanim. Hein, c'est un petit peu comme un salaire qui était payé au Kohanim, qui étaient les représentants religieux du peuple. Et donc, il y avait besoin aussi de pouvoir vivre et de pouvoir se nourrir. Et puis, différents autres prélèvements, qu'on n'a pas le temps maintenant de passer en revue, mais qui étaient consacrés, on va le voir, certains aux pauvres, certains aux Lévi'im. Et donc, avant de pouvoir consommer de sa récolte, l'agriculteur devait s'acquitter d'un certain nombre de prélèvements. La terouma qui était réservée aux Kohanim, et qui représentait en moyenne un cinquantième de la récolte, ça pouvait être plus, ça pouvait être moins, mais c'était en gros ce qui était prélevé, eh bien, cette terouma-là, elle était exclusivement, comme je l'ai dit, réservée au Kohanim, mais elle devait être consommée dans des conditions de pureté tout à fait particulières. Et il est important, je pense que les Kohanim comprennent que ce prélèvement qu'ils recevaient et qui, en quelque sorte, venait les nourrir et les encourager aussi dans le travail qui était le leur en tant que représentant du peuple, eh bien, ne soit pas profané. C'était aussi une manière pour le Kohen de respecter ce prélèvement obligatoire qui lui était confié et de montrer que le Kohen exerçait sa mission, avec un sérieux tout à fait particulier et avec aussi un devoir de reconnaissance et de comprendre que le Kohen, par les fonctions qui lui ont été réservées et données par la Torah, eh bien, n'est pas une personne comme une autre. Elle a des, comme je l'ai dit, elle a des responsabilités. Elle a non seulement des responsabilités, mais des responsabilités collectives. Et à partir du moment où elle a des responsabilités collectives, eh bien, elle se doit de faire preuve d'un sérieux tout à fait particulier.
Alors, on va passer sur tout le côté des infirmités des animaux, parce que le temps nous impose à faire des choix, et je voudrais qu'on arrive à la partie, à la longue partie qui parle des fêtes, et on appelle en fait le nom des fêtes en hébreu, c'est Moadim, ça veut dire fixer, fixer quoi?
Alors, ce sont des moments fixés, ce sont des moments de rendez-vous aussi. On a beaucoup l'habitude de traduire le mot Moed par un rendez-vous, parce que effectivement la fête, la solennité, c'est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. C'est une convocation, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Hein. On n'est pas convoqué comme on serait convoqué devant un juge ou devant un policier, mais convoqué devant quelqu'un qui nous veut du bien. Convoqué à partager un moment d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Vous avez insisté, vous, Jean, sur la partie qui concerne justement la fixation de ces fêtes, et vous avez eu raison de le faire, dans le sens où la particularité, justement, de ces Moadim par rapport au Shabbat, c'est qu'elles sont fixées par l'homme et non pas par Dieu, par Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, lui, c'est un moment qui n'évolue pas, qui ne bouge pas. C'est le septième jour de la semaine et ce n'est pas à l'homme de fixer le Shabbat. Il y a six jours dans la semaine, le septième jour est le jour du Shabbat. On a d'ailleurs des indications qui nous sont données dans la Torah orale, pour savoir comment est-ce que l'on doit faire si jamais on a perdu la notion du temps, quelqu'un qui se serait perdu dans le désert, qui n'a plus la notion du temps, eh bien la manière dont il va devoir compter pour arriver justement au Shabbat et pouvoir observer le Shabbat. Les fêtes, elles ont cette particularité qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a décidé de partager la notion de calendrier avec l'homme, et que c'est le Beit Din qui va fixer sur le témoignage donc de deux témoins par rapport à la nouvelle lune, ces fêtes. Je crois que c'est très très important, on n'a pas le temps malheureusement de développer ce sujet, mais c'est très important qu'il y ait cet équilibre entre le Shabbat, qui lui ne bouge jamais, qui est toujours finalement à la même place, et ces fêtes qui vont être fixées, mais qui sont fixées par l'homme, comme si Dieu donnait la possibilité à l'homme, et même l'invitait à apprivoiser le temps, et à pouvoir...
Le septième mois, le premier mois, je veux dire, il y a des indications.
Tout à fait. Il y a des indications dans le sens où les fêtes doivent être célébrées à des moments qui sont précis par rapport aux saisons. Mais la manière dont on va fixer le Rosh Chodesh, est-ce que les mois vont avoir 29 jours ou 30 jours ? Est-ce qu'il peut entraîner des décalages, Jean, comme vous le savez, d'un jour dans la fête ? Et c'est ce qui va faire toute la différence. Hein. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc vous avez raison. Il y a des repères. Il y a des repères qui nous obligent à célébrer Pessah à une certaine saison. À célébrer, et c'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes décalés avec notre calendrier lunaire, trop décalés notre calendrier solaire, et bien nous allons intercaler un 13e mois de manière à nous recaler aussi sur le calendrier solaire, parce qu'il faut respecter le cycle des saisons. Mais pour autant, on va confier à l'homme la responsabilité de pouvoir lui-même apprivoiser ce temps en fixant lui-même les dates. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si ça serait contraire à la réalité, parce qu'on a eu un témoignage qui serait un témoignage finalement, même si on l'a testé, qui se témoignage est avéré, mais il y a eu une erreur d'appréciation de la part des témoins, ou que le Beit Din a même sciemment décidé de fixer le premier jour du mois à une date qui n'est pas la bonne, eh bien, cette date-là reste malgré tout celle que nous devons respecter et observer. C'est la force vraiment que la Torah a donnée au Beit Din et aux hommes que nous sommes pour apprivoiser ce temps et pouvoir l'apprécier à sa juste mesure.
Et bizarrement, il n'y a pas de précision concernant la fête de Shavuot.
Vous avez raison.
Ce sera 40 jours après Pessah.
Tout à fait. Alors, se rajoute à ce que l'on a dit. Vous avez, autant pour les autres fêtes, nous avons des jours bien précis dans le mois. Donc, une fois qu'on nous savons que, par exemple, le premier Nissan est tel jour, eh bien, Pessah devrait être obligatoirement célébré le 15e jour du mois de Nissan. Pour Shavuot, c'était pas le cas. La fête de Shavuot était effectivement la seule à ne pas avoir de date précise par rapport au mois de Sivan. Là aussi, beaucoup d'explications. La première, c'est que la fête de Shavuot, elle dépend directement de la fête de Pessah. Et volontairement, on n'a pas donné de date pour bien nous montrer qu'on ne peut pas déconnecter ces deux moments. Shavuot n'est pas un moment qui peut être célébré sans tout ce que la fête de Pessah vient nous léguer en tant que bagage spirituel. Ce sont des moments qui doivent se nourrir les uns des autres. Peut-être aussi nous dire toute l'importance qui existe durant ces 49 jours qui séparent la fête de Shavuot, la fête de Pessah de la fête de Shavuot, que chaque jour a son importance, que chaque jour doit être un jour de préparation spirituelle à cette fête de Shavuot. Et que si la Torah nous avait fixé peut-être une échéance précise, on aurait peut-être un petit peu atténué et diminué l'importance que doit avoir chacun de ces jours en attendant tout simplement l'échéance qui est présentée par la Torah. La Torah, là, a voulu absolument que chacun de ces jours soit un jour de préparation, et c'est la raison pour laquelle elle a préféré ne pas donner de date fixe.
Il nous reste 3 minutes, donc on va essayer de faire 1 minute par sujet. On va donc arriver... À la menorah, qui n'est pas à confondre avec la chanoukia, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous donner ce que c'est une menorah et son rôle et sa symbolique?
On a beaucoup parlé de la menorah. La menorah, c'est un des kélim, un des ustensiles, peut-être le principal même, ou je veux dire un des... je ne sais pas si on peut parler de principal, parce que chaque ustensile à l'intérieur du Mishkan, du tabernacle, puis du temple, avait une importance particulière. Mais la menorah, on ne pouvait pas passer à côté. Elle était allumée en permanence, entretenue par le Kohen, et elle éclairait. Et on sait chez nous que la lumière a une symbolique tout à fait particulière. Bien sûr, elle éclairait à l'intérieur du temple, mais elle éclairait bien au-delà du temple, elle éclairait en réalité le monde. Cette lumière qui est la lumière de la Torah, qui est la lumière de la sagesse, et qui en réalité même la lumière de toutes les sagesses, avec donc ces trois branches de part et d'autre qui vont être portées par la branche, par la lumière centrale. Et, il y avait sept branches dans cette menorah. Eh bien, ce sont toutes les sciences qui sont au service finalement de la science suprême, qui est la science de la Torah, qui comporte en elle toutes les sciences. Et cet éclairage est un éclairage qui en réalité éclaire bien plus que le temple, bien plus que les Kohanim, et bien plus que le peuple juif. C'est un éclairage en réalité qui est l'éclairage de la sagesse, d'une sagesse authentique et absolue. Et cette sagesse-là a pour vocation d'éclairer le monde. Si on nous parle de ce sujet à la fin de la paracha Témor, alors qu'on nous en a déjà parlé dans la paracha de Tetzaveh, notamment dans la paracha de Terouma, les sidrotes qui sont consacrées à la confection des ustensiles du Mishkan, tout comme on va nous parler juste après des pains de proposition, c'est pour nous dire que Dieu, après avoir parlé des fêtes, après avoir parlé du Shabbat, eh bien il souhaite voir le peuple d'Israël s'inspirer justement de ces moments, que sont ces moments de rendez-vous et ces moments d'intimité avec Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir eux-mêmes se laisser éclairer justement par cette lumière, mais pouvoir être eux-mêmes des vecteurs de cette lumière, les pains, eux, représentant une certaine forme d'abondance aussi de Parnassa pour laquelle nous prions, à laquelle nous aspirons.
Je suis désolé, je suis obligé de conclure. Juste avant, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est Pessah Sheni et que certains ont l'habitude de manger des matzahs. C'est bien de manger de matzah aujourd'hui.
C'est bien, c'est une tradition de manger de la matzah. Hein. Je rassure tout le monde, si quelqu'un n'a pas de matzah chez lui à la maison, qu'il ne peut pas aller s'en acheter ou s'en procurer. Il y a absolument rien de grave, mais il y a effectivement une tradition pour rappeler cette opportunité qui était offerte à ceux qui, ou bien parce qu'ils se trouvaient éloignés de Jérusalem, le 14 Nissan, ou bien tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en état de pureté, bien que se trouvant à Jérusalem, n'avaient pas pu du coup apporter le Corban Pessah et consommer du Corban Pessah, le sacrifice pascal. Donc il y avait une session de rattrapage, et en souvenir de cette session de rattrapage, donc c'est un moment vraiment important, eh bien nous avons la tradition, pour ceux qui le peuvent, de consommer de la matzah.
Dans la bracha ou pas ?
Alors c'est là aussi une machloquette, une discussion entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim ont l'habitude de faire motzi, les Sfaradim ont l'habitude de faire mezonot en dehors de Pessah.
Voilà, merci monsieur le grand rabbin, je souhaite un très bon Shabbat, merci à Lucas pour la réalisation technique. Shabbat shalom à vous tous et à la semaine prochaine, si Dieu veut.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, you did not prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the